Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Alexia Germont, présidente du think tank France Audacieuse, adjointe au maire du 15e arrondissement de Paris, en charge du développement économique, des entreprises et de l'emploi, déléguée d'Horizon dans le 15e arrondissement. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Alexia Germont, avant la prochaine journée de mobilisation contre les retraites ce jeudi, Elisabeth Borne multiplie les rencontres pour tenter d'apaiser les tensions sur les retraites, et des consultations boycottées par une grande partie de la gauche. Les syndicats ont menacé de claquer la porte si la Première ministre refuse de parler des 64 ans. Est-ce qu'un dialogue est possible si le gouvernement maintient sa position sur les retraites ?
En tout cas, il faut toujours chercher le dialogue et trouver le chemin qui permette de rassembler au maximum. Alors, je vous accorde que le contexte actuel n'est pas propice à l'exercice. C'est pour ça que je pense très sincèrement qu'il faut continuer de saluer l'action de la Première ministre qui tente d'apaiser les tensions dans le pays, qui sont grandes et dont il faut tenir compte. Et surtout qui essaye toujours de dialoguer avec tous les acteurs sur la méthode. Voyez-vous, il y a, je pense, que deux sujets qui sont en parallèle, en fait. Vous avez la focalisation sur la réforme des retraites, mais il faut quand même rappeler qu'elle poursuit son chemin que je qualifie de démocratique, hein, même s'il y avait des questions d'opportunité politique qui ont été évidemment soulevées. Mais dans le cadre du 49-3, qui est un outil constitutionnel et donc on ne peut pas le qualifier autrement que d'outil démocratique, il y a maintenant tout le chemin qui va jusqu'au Conseil constitutionnel, on y reviendra peut-être, mais il y a aussi le fait de renouer le dialogue dans un contexte social qui a été extrêmement tendu, et c'est la raison pour laquelle la Première ministre a souhaité ouvrir au-delà de la réforme des retraites, notamment pour travailler, proposer de travailler avec l'intersyndicale sur toutes les questions autour de la question du travail, notamment je pense à trois points en particulier qui ont été mentionnés comme à l'agenda, la répartition de la valeur au sein de l'entreprise, les fins de carrière et les petits salaires en dessous du SMIC. Tout ça en amont bien évidemment de la journée de mobilisation prévue jeudi.
Alors, on attend l'avis du Conseil constitutionnel le 14 avril. Alexia Germont, une partie de l'opposition estime que la majorité a dévoyé la Constitution en choisissant un calendrier contraint pour la réforme des retraites, une méthode utilisée habituellement pour les projets de loi de finances.
Oui, alors c'est intéressant, là je reprends ma casquette d'avocat, même si je ne suis pas constitutionnaliste. Sur le fond, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, le Conseil constitutionnel aura à se positionner sur deux sujets en parallèle. Le premier, que vous avez mentionné, c'est-à-dire sur le véhicule qui a été utilisé par le gouvernement, et un second, qui me paraît aussi intéressant dans le contexte actuel, qui est celui du RIP, du référendum d'initiative partagée et sur lequel on reviendra peut-être. Alors, par rapport à votre question, à partir du moment, la juriste qui parle, à partir du moment où il y a des arguments qui peuvent être portés en discussion sur lesquels le Conseil constitutionnel devra se positionner, il y a évidemment une zone qui permet à l'opposition de penser que ces arguments pourraient prospérer. Et de la même façon, il y a aussi pour le gouvernement peut-être l'espoir, on va dire, que en tout cas le texte ne soit pas censuré. Les arguments de l'opposition, pour y revenir 30 secondes, effectivement, c'est le fait que ça a été dans le cadre d'un budget rectificatif de la Sécurité sociale. Et puis également, il y a le fait que ça a été dans le cadre d'une procédure dite d'urgence avec des délais d'examen contraints. C'était notamment ce qui s'est passé lors de l'examen au Sénat, si vous vous souvenez bien. Donc il y a le premier argument sur le détournement potentiel de la procédure d'urgence. Et puis il y a également ce qu'on appelle en droit les cavaliers législatifs, qui aurait été utilisé, c'est-à-dire pour parler clairement, le fait que le gouvernement, ce sont les arguments qui sont avancés, aurait utilisé un contexte législatif pour passer en fait des propositions qui n'ont rien à voir avec le budget. Et là, on vit notamment la question de l'index senior. Alors, ça, c'était sur la technique, mais la technique n'a pas d'intérêt, quelque part, si elle n'est pas remise en perspective, je trouve, par rapport aux grandes orientations et ce qui risque de se passer. En fait, le Conseil constitutionnel, le 14 avril, sur la partie projet de loi de finances sécurité sociale, rectificative, il aura deux options. Soit il valide le texte dans sa globalité, soit il le censure, et s'il vient dans une démarche de censure, il peut le censurer soit dans son intégralité, soit en partie. Quand on parle d'en partie, souvent, il y a la question du cavalier législatif qui ressort. Ça pourrait être peut-être une façon aussi pour le Conseil constitutionnel et l'ensemble des partis peut-être de sortir par le haut de cette crise.
Alors, il y a cette possibilité de censurer le texte, mais il y a aussi un autre aspect que vous avez évoqué, Alexia Germont. Le Conseil constitutionnel pourrait permettre aux Français de s'exprimer sur les retraites via un référendum, mais c'est une procédure assez longue.
Oui, c'est une procédure assez longue. Alors, pour remettre un peu aussi en perspective, de mémoire, c'est la réforme de la Constitution de 2008 qui avait permis cet ajout, donc c'est un outil constitutionnel en tant que tel, donc démocratique, de la même façon qu'on l'exprime pour le 49.3, ça a la même valeur puisque la même source constitutionnelle. C'est une procédure assez longue qui a failli aboutir, en tout cas qui avait démarré, si vous vous souvenez bien, au moment de la proposition de privatisation des aéroports de Paris, et qui n'est pas allée à son terme parce que il n'y avait pas eu suffisamment de voix des électeurs recueillis. Alors, cette procédure-là, pourquoi dit-on qu'elle est longue? Tout simplement parce que nous en sommes à la première étape où vous avez eu 252 parlementaires donc de l'opposition qui ont porté le référendum d'initiative partagée avec l'idée d'interroger les Français sur la possibilité de repousser l'âge de départ à la retraite au-delà de 62 ans. Donc c'est sous le format d'un projet de loi, d'une proposition de loi. Donc les conditions, en fait, ce que va devoir faire le Conseil constitutionnel, c'est déjà ouvrir la porte ou la refermer. S'il ouvre la porte, ça veut dire qu'il aura considéré que les conditions de recevabilité de ce référendum auront été validées, notamment pour vérifier l'adéquation en fait de cette proposition de référendum d'initiative partagée avec le cadre juridique qui est encadré par la Constitution. Et en l'occurrence, il devra vérifier si la proposition de loi proposée porte bien sur les domaines de l'organisation des pouvoirs publics, des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale, et aux services publics qui y concourent. Voilà, ça c'est le cadre juridique, et donc le Conseil constitutionnel devra ouvrir la porte ou la fermer. Et la procédure est longue pour boucler la boucle, parce que s'il ouvre la porte, bon, s'il la referme, il n'y aura pas de référendum d'initiative partagée, parce qu'il aura considéré que ça n'était pas constitutionnel, que le projet de loi qui était proposé ne rentrait pas dans les clous. En revanche, s'il ouvre la porte, ça veut dire après qu'il y a la possibilité, il faut pour que ça aille à son terme, qu'il y ait 10% du corps électoral, donc aujourd'hui un peu plus de 48 millions, donc un peu plus de 4 millions 800 000 Français, électeurs, qui puissent voter en faveur de ce référendum d'initiative populaire, et ça se fera par le biais d'une pétition demandée par le biais du site du Conseil constitutionnel.
Alexia Germont, est-ce que la Première ministre peut encore trouver des partenaires pour gouverner dans les semaines et les mois qui viennent ? L'idée du président de la République est de saucissonner les lois. Par exemple, la partie répressive de la loi sur l'immigration pourrait être votée avec la droite. Le volet plus accueillant de cette loi, la régularisation des sans-papiers, serait voté avec la gauche. Est-ce que c'est une façon de procéder nouvelle dans l'histoire de la Ve République?
En tout cas, le président de la République et l'ensemble de l'équipe gouvernementale avaient bien dit au début de ce nouveau quinquennat que l'idée était de trouver des majorités compte tenu de la situation tout à fait atypique dans laquelle on se retrouve aujourd'hui avec cette fragmentation en fait de l'Assemblée nationale. Mais voyez-vous, la question de la fragmentation des majorités, c'est une chose, mais il y a pour moi aussi important la façon dont ces majorités se comportent pour le bien du pays. Voilà. Et pour répondre très précisément à votre question, c'est vrai que l'idée de passer par tranche un certain nombre de sujets, bon, peut paraître atypique. Moi, je crois qu'il y a une urgence véritable qui est vraiment de trouver la voie du renforcement du bloc central. Et le bloc central, je ne vise pas là un parti politique en tant que tel, hein, pas uniquement le gouvernement. Je crois qu'il faut vraiment, face à la montée des extrêmes, face à une façon d'utiliser la voie parlementaire qui, à mon sens, est détournée. C'est-à-dire que les scènes que l'on a vues dans l'hémicycle ne sont pas, je trouve, c'est un avis tout personnel, hein, mais à la hauteur de l'exercice d'une fonction élective. On peut avoir des désaccords, c'est ça en démocratie d'avoir des désaccords, mais on ne doit pas rentrer ni dans une personnalisation des débats pour en faire des combats. Je crois que ça n'est pas bon parce qu'on en perd l'essentiel, et l'essentiel pour moi c'est l'avancée de notre pays. Il faut quand même rappeler que aujourd'hui il y a une véritable urgence à pouvoir continuer de gouverner, à pouvoir continuer de se positionner pendant que les puissances mondiales évoluent qui ne nous attendent pas. Nous avons aujourd'hui un certain nombre de sujets qui sont devant nous, des grandes réformes très emblématiques, bien sûr, et très difficiles, qui expliquent aussi en partie, pas uniquement, mais en partie la crispation à laquelle nous assistons. Mais nous avons aussi devant nous la maîtrise des dépenses publiques. C'est un sujet, vous le savez, sur lequel depuis de nombreuses années, j'aime assez revenir aux fondamentaux, parce que pour moi, un pays n'est libre que si il ne dépend pas autant que cela de ses créanciers, pour parler clair. Et je ne vois pas pourquoi ce que nous n'acceptons pas dans nos vies individuelles de dépendance financière à d'autres, nous l'accepterions au niveau collectif. Je voudrais quand même rappeler, parce que ça me paraît très important, on oublie toujours pourquoi on est obligé d'avancer et de faire des réformes. Mais on fait ça parce que il faut pouvoir retrouver justement cette maîtrise. Ce n'est pas qu'une maîtrise financière, c'est aussi parce que la dette française a été, comme vous le savez, placée sous surveillance et que aujourd'hui notre pays, rappelons quand même les grandes masses, hein, doit 3 000 milliards d'euros à ses créanciers, qu'en 4 ans, la dette a bondi de 600 millions d'euros, elle a bondi de 600 millions d'euros aussi parce que nous avons eu une remontée très rapide des taux d'emprunt. Il y a 2 ans, on empruntait à taux zéro. Aujourd'hui, on emprunte peu ou prou à 3%. Cette année, sur les marchés, on va devoir emprunter 270 milliards d'euros. C'est quand même pas une paille. Et la charge de la dette, c'est-à-dire rien que les intérêts que nous devons régler en 2023, nous, la France, c'est 50 milliards d'euros. Et pour finir là-dessus, 50 milliards d'euros, juste pour donner des ordres de grandeur, je trouve qu'on les perd trop souvent de vue. 50 milliards d'euros, c'est 5 fois le budget de la justice, qui oscille entre 8 et 10, et c'est 1 fois le budget des armées. Voilà. Donc, voilà pourquoi aussi il faut être en capacité de retrouver des majorités, texte par texte, pour continuer d'avancer sur les sujets qui ne peuvent pas être mis de côté pendant 4 ans.
Alors, depuis quelques jours, Gérald Darmanin accuse la gauche d'irresponsabilité après les incidents de Sainte-Soline, des manifestants grièvement blessés, des policiers blessés également. Le ministre de l'Intérieur parle d'éco-terrorisme et de terrorisme intellectuel. Quel regard portez-vous sur cette séquence politique ?
Écoutez, quand on voit une France qui s'affronte, moi j'en suis toujours triste. Mais je crois qu'on doit aussi regarder les faits avec une certaine objectivité. Et je crois que plus globalement, on souffre souvent dans notre pays du fait de mal nommer les choses. Et comme on les nomme mal, on ne peut pas après proposer des chemins de solutions ou d'apaisement. Il est vrai que vous avez, j'y venais en début de discussion, il est vrai qu'aujourd'hui, vous avez une partie de la gauche, hein, qui fait partie de la NUPES, qui s'arc-boute sur des positions qui ne sont plus des positions uniquement idéologiques, qui sont aussi de contestation et de mise en œuvre de la contestation, y compris dans la rue. Alors, on va encore plus loin hein, sur Sainte-Soline. Je comprends bien que votre question partait de là et pour ma part, moi, j'apporte tout mon soutien aux forces de police et de gendarmerie qui, je crois, sont face, dans ce cadre-là, à c'est même pas des débordements, c'est une façon organisée, théorisée, d'affrontement face à ce qui représente l'institution. Et évidemment, pour ma part, je ne peux pas cautionner cela. Après, je crois vraiment que ce qui est encourageant, vous savez, en bonne démocrate républicaine, j'ai toujours dit que j'appelais toujours de mes voeux, même si je suis une femme avec des valeurs de droite, le fait d'avoir une gauche avec des valeurs républicaines, laïques, extrêmement une gauche de gouvernement forte. Je trouve que c'est ça. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable, qu'il ne faut pas être capable après de travailler en commun sur des sujets sur lesquels on retrouve une colonne vertébrale commune qui nous permet d'avancer pour trouver un certain nombre de solutions. Et on voit bien qu'il y a aujourd'hui, je trouve que les élections partielles législatives en Ariège donnent plutôt de l'optimisme de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a eu une remontée de pente organisé par un certain nombre de personnalités tout à fait respectables à gauche. Je pense à Bernard Cazeneuve, par exemple, l'ancien Premier ministre, qui aujourd'hui est en train d'essayer de structurer, si je comprends bien, une gauche républicaine qui ne partage pas les mêmes valeurs que celles qui sont prônés par LFI, par les Insoumis. Et ça, je trouve que c'est encourageant parce qu'il faut marquer ce qui est acceptable en démocratie et ce qui ne l'est pas.
Merci Alexia Germont. Je rappelle que vous êtes avocate, présidente du think tank France Audacieuse, adjointe au maire du 15e arrondissement de Paris, en charge du développement économique, des entreprises et de l'emploi, ainsi que déléguée d'Horizon dans le 15e arrondissement. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.